autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur l'intense activité tellurique de notre planète, volcans, séismes, tsunamis. Comment observer sur Terre, mais aussi depuis l'espace, ces phénomènes parfois cataclysmiques ? Comment mieux les comprendre ? Est-il possible de les prévoir ? Ou en tout cas d'améliorer nos réponses face aux catastrophes majeures qu'elles induisent ? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités. Le géologue Jean-Claude Bousquet, qui vient de publier « Volcans, séismes et tsunamis en Méditerranée » et Claire Tinel, experte en imagerie spatiale, représentante du CNES auprès de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures. Autour de la question comment changer de perspective sur l'activité sismique et volcanique de la Terre, bienvenue. Bonjour Claire Tinel.
Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Jean-Claude Bousquet.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe juste sous nos pieds, cette très intense activité géologique que vous étudiez, Jean-Claude Bousquet, sur le terrain. Vous êtes géologue, vous avez passé votre vie à arpenter les pays qui bordent la Méditerranée, vous retrouvant même sur les pentes de l'Etna en éruption ou au cœur d'un terrible séisme en Arménie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de géologie et vous venez de publier Volcans, séismes et tsunamis en Méditerranée aux éditions Biotope. Est-ce qu'on comprend mieux aujourd'hui, Jean-Claude Bousquet, l'origine de ces phénomènes géologiques assez cataclysmiques ?
Personnellement, j'ai fait mes études il y a très longtemps à Paris, enfin dans les années 60, et j'ai comme ça eu la chance enfin, de toute ma carrière de voir progressivement les disciplines enfin, qui s'intéressent à ces phénomènes se manifester de façon de plus en plus complète sur la Méditerranée. Donc j'ai suivi les progrès et dans mon ouvrage, j'ai essayé justement de montrer quel était le chemin qui avait été parcouru depuis
la compréhension de la tectonique des plaques.
Oui, même auparavant, si vous voulez, quand est-ce qu'on a commencé à avoir une approche scientifique de ces phénomènes et ne pas simplement leur donner une image, disons, de théologique, enfin, qui était de règles. Et il y a eu des tremblements de terre, bon, le Lisbonne, qui a été un changement, celui de Lisbonne, bon, dont on a beaucoup parlé, Voltaire, bon, qui a été un changement important. Mais il y en a eu après, par exemple, en 1783, en Calabre, où il y a eu une première mission avec des observateurs, des gens qui ont fait des dessins de ce qui s'était passé, toute une série de gens qui ont apporté des témoignages qui nous restent sur ce phénomène.
Alors c'était des témoignages, aujourd'hui il y a des outils,
oui,
des outils technologiques
ont aussi changé la donne. Bien sûr, et puis après il y a eu la naissance par exemple de la sismologie, mais c'est à la fin du 19e siècle. Et ce qui s'est passé, c'est que la sismologie s'est développée à base de physique et de mathématiques, bien sûr, et on a un peu oublié que le tremblement de terre, bon, ou c'était des phénomènes géologiques. Et les géologues aussi se sont un peu désintéressés d'une science qui ne les concernait pas, qui était trop mathématique, quoi. Et c'est seulement, disons, à partir des années 60-70, c'est justement quand il y a eu aussi la tectonique des plaques, la théorie générale d'explication sur notre planète, que la géologie est redevenue un partenaire important dans l'étude de ces phénomènes-là. Donc c'est ça aussi que je montre de tout ce chemin que maintenant on fait ensemble. Enfin que maintenant,
oui, parce que maintenant c'est interdisciplinaire et maintenant les géologues sont aussi aidés par les outils spatiaux, oui, par la technologie de l'espace. Claire Tinel, vous êtes experte en imagerie spatiale, représentante du CNES auprès de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures, qui s'est donnée pour mission de mettre les technologies spatiales au service des équipes de secours partout dans le monde. On va y venir. Mais d'abord, depuis l'espace, qu'est-ce qu'on peut voir et avec quels outils, comment l'espace a révolutionné notre observation de la Terre ?
Bah en fait, depuis les débuts de la conquête spatiale, les années 50, on a commencé à avoir les premiers satellites d'observation de la Terre, donc avec des satellites météo dans les années 60, puis des satellites permettant de cartographier dans les années 70. Et au fur et à mesure en fait, des années, des avancées technologiques, on a une résolution spatiale qui est vraiment meilleure. Pour vous donner un exemple, au niveau du programme du Centre national d'études spatiales en observation de la Terre, on a le programme SPOT, donc SPOT pour satellite pour observation de la Terre, qui a débuté avec SPOT 1 en 1986, 10 mètres à 20 mètres et 10 mètres de résolution.
20 mètres, 10 mètres de résolution.
Voilà. Qui s'est terminé avec SPOT 5 en 2002 à 2,50 mètres de résolution et qui a continué avec les satellites Pléiade en 2011 et 2012 à 70 cm de résolution.
C'est-à-dire, satellites Pléiade, on va y revenir, qui vous servent beaucoup dans cette charte internationale sur les catastrophes majeures et l'espace. Ces satellites, c'est quelle résolution? Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Jusqu'où peuvent-ils voir de là-haut la Terre?
Alors, c'est des satellites qui sont en orbite à une altitude de 700 km de la Terre et qui, lorsqu'on dit qu'ils ont une résolution de 70 cm, c'est-à-dire qu'ils peuvent identifier tout objet sur le sol de la planète dont la taille est supérieure à 70 cm. Pour vous donner un peu une idée de la capacité technologique de ce satellite, c'est comme si ici depuis le studio de RFI à Paris, on pointait un appareil photo vers Toulouse, parce que Toulouse se trouve à 700 km de Paris, avec un très gros objectif, et on zoome jusqu'à pouvoir distinguer la place principale de Toulouse, qui est la place du Capitole, et même les détails architecturaux, les fenêtres des bâtiments de la place du Capitole.
Ah oui, voilà, donc c'est une sacrée résolution, ça permet effectivement de voir jusqu'au moindre détail.
Exactement.
Est-ce que ça change ça? Est-ce que ça change tout pour un géologue comme vous, Jean-Claude Bousquet? Est-ce que ça a changé dans votre quotidien de géologue, cette technologie spatiale?
Dans mon quotidien, j'étais un peu un spécialiste de l'étude des photographies aériennes. Et puis après, on est passé aux photos Landsat. Et par exemple, ça a permis de découvrir en Asie qu'il y avait des très grandes failles qui n'étaient absolument pas connues.
Et qu'on a pu repérer de l'espace.
Qu'on a repéré de l'espace et ça a été vraiment une très grande découverte sur toute l'Asie, parce que là, il y avait des endroits où la cartographie était vraiment très sommaire. Et ensuite, on a continué à travailler avec tous ces outils pour avoir des... Donc maintenant, il y a des spécialistes de l'étude de toute cette imagerie satellitaire.
Mais je crois que le géologue que vous êtes a toujours besoin d'aller sur le terrain. Vous êtes un homme de terrain pour comprendre tous ces phénomènes. Alors autour de la question des séismes, des volcans, des tsunamis, avant de les observer vus de l'espace avec vous, Claire, on va commencer par partir avec vous sur le terrain, Jean-Claude Bousquet. Les pieds sur terre, mais les oreilles très très grandes, ouvertes. On y va, ambiance tellurique. Jean-Claude Bousquet, dites-nous si ça vous dit quelque chose. Ça, c'est une ambiance proche d'un volcan, éboulement, crépitement.
C'est des petits crépitements, oui. Enfin, pour moi, c'est pas très spécifique d'un phénomène. Bon, nous sur le terrain, en général, on travaille dans des endroits qui sont calmes. Enfin,
il vous est pourtant arrivé de vous retrouver sur les pentes de l'Etna, je crois.
Sur l'Etna, pendant qu'il était en éruption. Mais l'Etna, si vous voulez, il alterne des périodes où il y a des explosions et puis il y a des périodes d'où il y a découlé. Et moi, je me suis trouvé en 1983, par exemple, au bord de coulée de l'Etna. Et on était sur des pentes bien en dessous des cratères. Il n'y avait pas de phénomène explosif. Et au contraire, c'était très, très calme. On entendait juste le bruissement de la lave qui frottait contre les parois d'une sorte de canal dans lequel elle coulait. Et puis autour, il y avait des petits oiseaux. Enfin, c'était très champêtre. Donc, si vous voulez, on a des images de volcans avec des très grosses explosions, ça c'est sûr. Hein. Mais les volcans sont d'autant plus dangereux qu'ils sont des volcans explosifs. Les volcans comme Hawaï, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, sont des volcans qui peuvent détruire avec leur coulée, mais enfin qui ne provoquent pas de morts comme certains volcans qui peuvent provoquer des morts de milliers de personnes.
Et qu'est-ce que vous avez alors dans les oreilles comme odeur? Je ne sais pas, quand vous travaillez sur une faille sismique, est-ce qu'on sait quand on marche sur une faille sismique?
Ah, pas du tout. Non, enfin, on le sait si vous voulez, parce qu'on étudie puis certaines failles qui ont déjà eu un passé, enfin qui ont déjà fonctionné dans un passé. Et on a des méthodes personnelles d'observation qui sont des méthodes de géologie classique, mais il y a une méthode qui s'est développée, c'est celle carrément de faire des tranchées, parce que quand on a à la surface du sol pas suffisamment d'éléments, à ce moment-là, on va faire des tranchées, donc d'une longueur de 10-20 mètres sur 5-6 mètres de large et autant de hauteur, enfin bon, suivant le terrain.
Et, pour aller essayer de repérer la faille,
Pour voir exactement comment la faille va traverser des terrains qui sont susceptibles d'avoir été coupés par cette faille. Et alors, on cherche des endroits où il y a des terrains très jeunes que l'on peut dater, et à ce moment-là, ça permet de dire qu'il y a eu un tremblement de terre il y a 2000 ans, entre 5000 ans, 10000 ans. Et comme les terrains, plus les terrains sont anciens, plus ils vont être décalés. Quand on a daté tous ces terrains, on va pouvoir dire que la faille joue avec une certaine période de retour. Par exemple, en France, la faille qui a donné le tremblement de terre de Lambesque, qui est le dernier gros tremblement de terre qu'il y a eu en France avec des victimes, cette faille joue avec une période de retour qui est entre 700 et 5000 ans. Donc, si vous voulez...
Les échelles géologiques, de temps géologique, ne sont pas les nôtres.
Hein. Oui, mais ça permet de voir qu'avant, quand on regardait une carte un peu de risque sismique sur la France, on avait une grosse tache à l'endroit de Lambesque, alors que Lambesque, ils sont tranquilles pour quand même peut-être plusieurs milliers d'années, mais que c'est une faille de même genre que celle de Lambesque, qu'il y en a d'autres dans la région, qui, à son tour, va jouer, et qui, elle, n'a pas joué depuis 2-3 000 ans.
Compliqué de prévoir, hein, dans ces échelles de temps géologique. Logique. Sur les bords de la Méditerranée, votre terrain de prédilection, on s'arrête en musique avec l'Orchestre National de Barbès, Méditerranée, mère de mes aînés.
Comme on est bien au bord de cet asile, bercé par le rythme de la houle tranquille, quand du soleil elle réverbère les rayons, ça scintille de mille feux à l'horizon. Ce lac blanc qui rêvait d'être mère, nombril d'un monde où l'ombre était notre repère, avec son soleil qui nous chauffait le cuir, comme s'il fallait qu'on soit des durs à cuire. Parfois comme toutes les mères elles se fâchent, sans doute pour pas trop qu'on s'attache, pour nous apprendre un peu à être sage. Furieuse elle balaye tout sur son passage.
Je t'ai médité, prodigué, Méditerranée. Je t'ai médité, prodigué, mère de mes aînés.
Ça sent la figue et cette bâtisse qui vient du fond des âges et qui vous dit regardez-moi, c'est moi le paysage. Soudain je pense à son passé mythique, à Carthage et aux guerres médiques, à l'opulence du doge de Venise et aux métèques à la toge malmise. Qu'on écoute à l'ombre des persiennes tout un tas d'histoires anciennes, contre sans doute d'un oncle phénicien, que nous raconte le cousin byzantin.
Méditerranée. Je t'ai médité, prodigué, mère de mes aînés. Je t'ai médité, prodigué, Méditerranée. Je t'ai médité, prodigué, on verra l'été.
L'Orchestre National de Barbès qui nous entraîne en Méditerranée sur RFI. Nous sommes en compagnie de Claire Tinel, représentante auprès du CNES de la charte Espace et Catastrophes Majeures, et du géologue Jean-Claude Bousquet, auteur de Volcans, Séismes et Tsunamis en Méditerranée. Tout de suite, une nouvelle question pour vous, Jean-Claude Bousquet, soulevée par Carole Châtelain du mensuel Science et Vie.
On aimerait finalement savoir si oui ou non, un jour, il y aura ou pas un tsunami à Nice. Puisque certains disent que oui, d'autres disent que non. Est-ce que la côte méditerranéenne est à risque ?
Votre réponse, Jean-Claude Bousquet.
Effectivement, à Nice, il y a déjà eu des petites tsunamis dans le secteur. Et il y a eu un tremblement de terre en 1887, ce qu'on appelle d'ailleurs le séisme ligure, qui a touché toute la côte ligure. En particulier, il y a eu beaucoup de dégâts côté italien. Et il y a une faille qui est au pied de la côte, disons, entre Imperia et Nice, et qui est en mer et qui pourrait provoquer des tsunamis. Et en 1887, il y a eu effectivement un tsunami.
Pourquoi est-ce que cette région, enfin tous les bords de la Méditerranée, sont-ils autant à risque, sont une région où il y a autant d'événements sismiques, volcaniques?
C'est une région, comme beaucoup d'autres, où les plaques font leur rencontre. Il y a la plaque africaine et la plaque arabique qui rencontrent la plaque euro-asiatique. Et donc, il y a une collision, un phénomène de collision entre ces plaques. Et cela provoque des déformations, des fonctionnements des failles qui sillonnent les croûtes terrestres. Et alors, en Méditerranée, d'ailleurs, on voit qu'il y a une répartition, surtout sur toutes les zones de pourtour et puis les zones d'affrontement qui sont du côté de Gibraltar d'un côté et de l'autre côté, du côté du Levant et de la plaque arabique. Et les zones océaniques, par contre, sont beaucoup plus calmes, sauf la mer Égée, parce que là, il y a des phénomènes, ou la mer Tyrrhénienne, parce qu'il y a des phénomènes en cours d'une plaque qui plonge, comme on a autour du Pacifique, le phénomène de subduction avec du volcanisme aussi qui est conséquent et qui est en relation avec ce plongement de la plaque.
Donc ce sont plutôt les bords de la Méditerranée qui sont à risque. Alors Claire Tinel, vous intervenez précisément juste après les catastrophes au sein de cette charte internationale espace et catastrophes majeures. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on active une charte pareille? En ce moment, alors on n'est pas du côté de la Méditerranée, mais en ce moment il y a un typhon qui est en train de passer sur le Japon. Est-ce que par exemple votre charte va être activée?
Alors effectivement, là, d'après les dernières nouvelles, le typhon est très violent, donc on s'attend à être activé, a priori, je pense que ce sera cette nuit ou demain matin. Et dans ces cas-là, donc ça va être la sécurité civile japonaise qui va activer la charte on va mettre en place en fait des demandes de programmation de différents satellites pour l'identification des dégâts, là, donc typiquement pour des typhons.
Par exemple, là, ce sont donc la sécurité japonaise qui vous alerte et du coup vous placez les satellites pour pouvoir prendre des images.
Donc à l'alerte, on a des opérateurs qui sont d'astreinte, donc 24 heures sur 24, et ces opérateurs vont contacter les agences spatiales pour demander les programmations des satellites. C'est-à-dire que dès que les satellites passeront au-dessus des zones impactées, ils feront des acquisitions d'images. Donc on va avoir typiquement des satellites optiques, on a vu tout à l'heure, c'est comme si on prenait des photos. On va également utiliser des satellites radar, donc ça nous donne une autre information. L'avantage du satellite radar, c'est le cas d'un typhon, c'est comme en général il y a des nuages. Après le passage d'un typhon, si on prend une photo depuis l'espace, on ne voit pas le sol à cause des nuages. Donc les satellites radar, autre technologie, nous permet de traverser ces nuages et vont nous informer en fait si par exemple sur la nature du sol, c'est-à-dire s'il y a de l'humidité, des inondations.
En fait, donc ça informe à la fois sur l'état des lieux sur place, sur les secours, ça peut être une information pour les secours à apporter et ensuite évidemment pour la reconstruction, c'est ça?
Voilà, c'est très complémentaire en fait. Ça nous informe après une catastrophe sur est-ce qu'il y a eu des dégâts? Quelle est l'étendue de ces dégâts? Où sont-ils situés exactement? Et ça permet aux secours de pouvoir s'organiser, savoir dans quelle zone ils vont se déplacer, vers quelle zone ils vont se déplacer en priorité et quelles sont les zones les plus touchées.
Alors cet été, j'imagine que vous avez dû être beaucoup sollicité, inondations, feux, séismes évidemment en Indonésie, volcans à Hawaï. Petit rappel des faits et de quelques phénomènes naturels qui ont enclenché la charte espace et catastrophes majeures avec le mix de Hugo Violas.
Dans cette zone résidentielle, une immense coulée de lave recouvre les maisons. Depuis jeudi, la grande île d'Hawaï est touchée par une série de séismes qui ont provoqué l'éruption du volcan Kilauea. Une vingtaine de maisons ont déjà été détruites et près de 2000 personnes ont dû être évacuées.
Dès les premières secousses, la réplique provoque un vent de panique dans les rues de Tanjung, au nord de l'île de Lombok. Elle est particulièrement violente, de magnitude 5,9. Ces épisodes compliquent les opérations de recherche. Les routes endommagées empêchent les secours d'atteindre certaines zones proches de l'épicentre, laissant craindre un bilan bien plus lourd.
Ah,
Septembre 2017, l'ouragan Irma ravage les Antilles françaises. Les services de secours ont besoin au plus vite de cartes détaillées des dégâts causés, établies à partir d'images satellites. La charte internationale Espace et catastrophes majeures est alors immédiatement activée. Plusieurs satellites sont utilisés, parmi lesquels Pléiade, qui est aussitôt programmée pour acquérir des images.
Cartinelle, qu'est-ce qui se passe justement quand il y a une catastrophe, quand la charte est activée? Vous venez nous dire que depuis l'espace, on peut faire des images, mais c'est vraiment au service des secours sur place?
Oui, exactement. En fait, il faut savoir que ces images, donc, l'intérêt de cette charte aussi, c'est que ça se passe sans échange de fonds. Donc c'est gratuit pour les utilisateurs, gratuit pour les services de secours, gratuit pour les autorités gouvernementales. Le but, en fait, c'est d'avoir un état des lieux des dégâts juste après la catastrophe. Typiquement, là, pour le séisme qui a eu lieu à Lombok au mois d'août, donc on a eu quatre secousses, hein, donc une première suivie par trois répliques, pratiquement au même endroit. Donc nous, on a été activés dès la première, la charte a été activée dès la première secousse. On a pu acquérir, en plus, il a fait des bonnes conditions météorologiques, donc on a pu avoir des acquisitions optiques dès le lendemain de l'activation de la charte. Et à partir de ces images satellites, on a ensuite des services de cartographie rapide qui vont...
Cartographie rapide. Ah oui, parce qu'en fait, il faut récupérer les images et ensuite il faut en faire quelque chose.
Alors, les images, il faut d'abord les récupérer depuis le satellite jusqu'aux stations sol. Ensuite, il faut les mettre en production et ensuite, elles sont envoyées à ce qu'on appelle des services de cartographie rapide. Donc, ce sont des équipes constituées de photo-interprètes, des experts en photo-interprétation. Et typiquement, là, lors d'un tremblement de terre, les secours ont besoin de pouvoir identifier les maisons qui sont endommagées dans un village. Donc, on va identifier ces maisons, on va sortir ce qu'on appelle des cartes de dégâts. Donc, les maisons, on va les identifier par des petits carrés de différentes couleurs qui vont montrer, en fait, l'intensité des dégâts. Donc, faiblement endommagés à totalement détruits. Les secours ont besoin également de savoir s'ils peuvent se déplacer, comment ils peuvent atteindre ces villages, comment ils peuvent atteindre la population. En général, lorsqu'il y a des tremblements de terre, il y a des glissements de terrain, donc avec des routes qui sont bloquées. Donc ça, on le voit très bien par satellite. Et également, lorsqu'il y a des tremblements de terre, en général, la population refuse de dormir dans les maisons, même si elles n'ont pas été endommagées, puisque à cause des répliques et des maisons qui ont déjà été, les maisons ayant déjà été touchées, elle risque d'être victime, en fait, de ces répliques. Donc, les populations montent des tentes de secours, dorment sous des bâches, et ça, c'est aussi visible depuis l'espace. Et ça permet aux équipes de secours de savoir où se trouve la population pour pouvoir acheminer l'eau potable et la nourriture.
Donc là, on est vraiment dans du secours et on est vraiment dans les technologies spatiales au service de l'humanitaire. C'est vraiment ça, la fonction de cette charte.
Alors oui, c'est au service de l'humanitaire. C'est en fait un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire pour eux, pouvoir décider plus vite, pour les secours, décider plus vite comment ils vont s'organiser et ce qu'ils vont faire.
Donc c'est vraiment... Quelle est la genèse de cette charte? Comment ça a commencé?
Alors la charte, en fait, ça a commencé il y a déjà, c'était dans les fins des années 80, début des années 90. Sans être chauvin, en fait, ce sont les ingénieurs du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, qui se sont dit, on a des satellites d'observation de la Terre, on peut faire la cartographie, on peut faire l'aménagement du territoire, faire du suivi de culture, de la végétation, et ces satellites, finalement, ils ont une couverture globale, ils peuvent imager n'importe quel endroit de la Terre très rapidement, pourquoi on ne les utiliserait pas dans la thématique des risques? Donc le CNES et avec l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, a amené cette idée à une conférence des Nations Unies en 1997-19, Unispace 3, et une des recommandations de cette conférence a été la mise en place d'une coopération internationale pour mettre à disposition donc les technologies spatiales sans échange de fonds au profit des équipes de secours, des autorités gouvernementales lorsqu'il y a des catastrophes.
Et c'est une vraie coopération parce que des agences spatiales, il n'y en a pas dans le monde entier. Là, il y a 17 agences spatiales, je crois, aujourd'hui.
Oui, voilà, donc de deux agences, on est passé à 17 agences, donc en 18 ans. Ça nous fait une constellation de satellites, donc une trentaine de satellites au niveau de la charte. Et lorsque les satellites, lorsqu'on a des demandes d'activation, de programmation, toutes les agences jouent le jeu. Justement pour ce côté aussi humanitaire, en fait.
Et ces demandes d'activation, qui est-ce qui demande d'activer cette charte et qui vous prévient et à qui répondez-vous oui ou peut-être non d'ailleurs?
Alors la charte peut être activée pour n'importe quel pays dans le monde. Et pour l'instant, il y a 129 pays dans le monde qui ont bénéficié des services de la charte. Maintenant, tout le monde ne peut pas l'activer. C'est-à-dire qu'il faut être ce qu'on appelle utilisateur autorisé. Pour être utilisateur autorisé, donc ça va être les protections civiles des membres, des agences spatiales membres de la charte. Il va y avoir les Nations Unies aussi qui sont autorisées à activer la charte. Et depuis 2012, on a mis en place ce qu'on appelle l'accès universel, c'est-à-dire permettre à tout pays, donc à toute entité d'un pays qui a un mandat national de gestion des risques, d'activer directement la charte. Donc l'autre condition, c'est de pouvoir suivre les activations en anglais, puisqu'en fait la langue officielle de la charte est l'anglais. Et il faut également avoir les technologies pour pouvoir télécharger des images, télécharger des cartes de dégâts.
Donc, et si on ne les a pas, on peut passer par un intermédiaire, j'imagine, exactement. Pour bénéficier de
voilà, les pays charte. Peuvent passer par les Nations Unies, peuvent passer par un pays voisin ou autre qui a cet accès. Donc là, depuis 2012, on a 16 pays qui sont devenus utilisateurs autorisés. Et le dernier, c'est Madagascar. Justement.
On va y revenir à Madagascar, mais d'abord on va faire un petit arrêt du côté de Haïti avec une pensée particulière pour nos auditeurs en Haïti et pour leur résilience. C'est Errol Josué, artiste et prêtre vaudou, qui la chante, cette résilience, dans ce très beau morceau « Garçon solide » enregistré après le terrible séisme de 2010.
Garçon solide, oui, comme nous. Si je bats comme nous dans la gonne, gardez-moi de me noyer. Kadja,
Kadja, Kadja,
Kadja, Kadja,
Kadja, Kadja,
Kadja. Manque noyer. Moi manqué noyé dans la gonne, garçon solide moi. Garçon solide, oui, comme nous. Si m'batte comme nous, bah c'est ça, gardez-moi de me noyé. Ibole le comme nous, kadjabo sou comme nous vrai. Bate com a mão na base, essa grande da vinoe. Solide. Garçon solide, moi. Garçon solide, oui, grand mon nom. Si m'batte grand mon nom, bah c'est ça. Gardez-moi de me noyer. Oui, grand mon ibo. Gardez-moi grand mon ibo, grand mon nom.
Garçon solide, Errol Josué sur RFI en Haïti. Vous nous écoutez, amis auditeurs, à Port-au-Prince sur 100.5. Solide, résilient et vulnérable Haïti, Claire Tinel. J'imagine que en Haïti, il y a le tremblement de terre, il y a des cyclones, il y a besoin de cette observation spatiale. Et pour refaire des cartes et pour vous travailler avec Haïti.
Alors effectivement, en Haïti, la charte a déjà été déclenchée plusieurs fois. Donc tout le monde se souvient du fameux tremblement de terre en 2010. Mais il y a eu également les passages des ouragans Matthew en 2016, Irma et Maria en 2017. Il y a eu, je me souviens aussi, des phénomènes d'inondation en avril 2017. Donc beaucoup de déclenchements de la charte. Actuellement, nous, on travaille justement avec la protection, la DPC, la Direction de la Protection Civile d'Haïti, pour cet accès universel, puisque à chaque fois
pour
la charte...
Pour qu'Haïti puisse avoir accès universel à la charte
espace et catastrophe majeure. Pour qu'Haïti puisse activer directement la charte, parce que jusqu'à présent, c'était soit la sécurité civile française, pour des raisons historiques entre la France et Haïti, soit les Nations Unies. Donc voilà, on est en train actuellement de travailler avec eux. Et effectivement, on a pu montrer le potentiel des images satellites qui ont été acquises après ces inondations, après les passages des cyclones, pour faire un état des lieux. On a eu, bon, après l'ouragan Matthew, il y a eu, par exemple, les villes d'Écailles et de Saint-Jérémy qui ont été détruites à 90%. Les images satellites, et notamment celles du satellite Pléiade, nous ont permis en fait d'identifier tous les dégâts, toutes les habitations qui avaient été endommagées.
Donc de faire une cartographie et donc voilà, de pouvoir permettre une reconstruction appropriée. Voilà. C'est quand même ça.
Alors là, on n'est plus dans le contexte de la charte, mais on a d'autres programmes, donc notamment au niveau du CNES et même international, et notamment sur Haïti. On a un programme qui s'appelle Recovery Observatory, donc observatoire de la reconstruction actuellement. Et le but, en fait, c'est de continuer ces images satellites, d'en prendre régulièrement pour essayer en fait de qualifier cette reconstruction, pas seulement au niveau du bâti, mais également au niveau des champs, de l'agriculture. Hein. C'est également ça qui a été touché, de la reconstruction de la voirie et tout ça. Donc là, on a effectivement un programme au long cours sur Haïti.
Alors vous nous avez parlé de Madagascar, Claire Tinel, puisque cet été Madagascar a rejoint le club, si j'ose dire. Il est devenu utilisateur autorisé de la charte espace et catastrophes majeures depuis le mois d'août. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que sur place, vous avez pu former, comment on dit, des utilisateurs autorisés, c'est ça, hein?
Voilà, alors donc ça fait aussi, on a également travaillé avec eux pour qu'ils obtiennent cet accès. C'est pareil, la charte a déjà été déclenchée plusieurs fois à Madagascar.
Pour d'autres causes, plutôt pour des cyclones,
en fait, principalement. Et à chaque fois, la charte avait été déclenchée par la sécurité civile française, toujours pour des raisons historiques, et également par les Nations Unies. Et donc là, au niveau du CNES, on a apporté un support pour la constitution du dossier, parce qu'il faut remplir un dossier. On a monté une petite équipe un peu sur place, voilà, qui sera capable, lorsqu'ils activeront la charte, de pouvoir activer, gérer. Et en fait, il a fallu
lire les images, les utiliser.
Voilà. Et il a fallu aussi les former. Donc les former quand et comment activer la charte, ça s'est fait en fait par téléconférence, tout simplement.
Je propose d'écouter précisément quelqu'un que vous avez formé, l'éclairage du général Charles Rambaud-Larsson. Il est secrétaire exécutif adjoint du Bureau national de gestion des risques et catastrophes à Madagascar. Vous avez donc travaillé avec lui, Claire, pour l'obtention de cet accès universel à la charte espace et catastrophes majeures. Notre reporter Raphaël Constant l'a joint par téléphone.
Lorsque les catastrophes surviennent, on a besoin d'une vision globale de la situation. On a toujours besoin de réexaminer cette situation, donc l'évolution de la situation, et surtout en vue de se préparer à la prochaine saison.
Et comment Madagascar a eu accès à cette charte?
C'est tout d'abord par l'utilisation et la valorisation régulière de ces cartes spatiales. Je pense aussi que c'est à partir du moment où ces produits ont été utilisés dans un cadre humanitaire et partagés ou analysés avec des acteurs humanitaires à Madagascar qu'on a pu donc passer un test ou un essai sur la connaissance des produits, la connaissance du CNES et surtout nos aspirations quant au développement du cadre de collaboration avec le CNES.
Et alors pour bien comprendre, qu'est-ce que ça va changer désormais cet accès à la charte pour Madagascar?
Ce qui change tout d'abord, c'est le délai donc d'acquisition des images se trouve réduit. C'est aussi un cadre de collaboration pour développer l'utilisation des imageries satellitaires dans le cadre humanitaire.
Parce que le fait d'avoir ces images satellites directement, est-ce que pour Madagascar, c'est aussi un moyen d'intervenir plus vite sur place?
Justement, toutes ces informations sont très utiles pour les interventions, non seulement les images en elles-mêmes, mais surtout l'utilisation par les acteurs humanitaires.
Vous voulez réagir, Claire Tinel, à ces propos de Charles Rambaud-Larsson recueillis par téléphone par Raphaël Constant?
Depuis non, mais Madagascar. Oui, ça me fait plaisir de le réentendre. Et effectivement, là, ils sont prêts, comme ils disaient, ils ont été formés, ils ont passé des tests, hein, ils ont fait des fausses en fait activations de la charte pour pouvoir être prêts. Et c'est vrai que là, on a donc, je sais en tout cas qu'ils sont prêts pour la prochaine saison cyclonique qui va arriver à la fin de l'année. Et effectivement, ça, c'est aussi un moyen pour eux d'être indépendants. Notamment en recevant directement les images satellites au lieu qu'elles passent par des intermédiaires.
Et vous avez envie d'élargir, enfin de transmettre un peu plus largement peut-être au sud, j'imagine. Est-ce que sur le continent africain aussi, il y a des pays qui sont habilités, il y a des utilisateurs habilités à activer cette charte ?
Alors au niveau de l'Afrique, on a l'Algérie, le Nigeria qui ont accès à la charte et ensuite on a également donc Malawi et Madagascar. Il y a le Soudan qui vient tout juste de déposer sa candidature il y a un mois, donc le dossier est en cours de validation, donc ils auront bientôt l'accès universel. Mais c'est vrai que nous, on essaie de travailler avec les pays africains, c'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément les bons contacts pour apporter, nous, notre support, donc déjà au niveau de l'Afrique francophone,
en tant que francophone, bien sûr.
En tant que francophone, mais également, il y a également d'autres pays, pour les pays anglophones, on a le support des autres agences spatiales. Je vais penser aux agences du Royaume-Uni, des États-Unis, enfin voilà, d'autres agences. Mais c'est vrai qu'on cherche le but pour nous au niveau de la charte, c'est d'élargir cet accès. Et l'utopie serait que tous les pays du monde puissent activer directement la charte. Ça sera pas forcément possible, mais voilà, au moins l'élargir le plus possible.
On peut y travailler. On peut essayer d'élargir le plus possible parce que tout de même, on se dit que c'est souvent au sud, ou en tout cas dans la zone intertropicale, qu'il y a quoi ? Qu'il y a plus de... En tout cas, pour ce qui est ouragan, typhon, cyclone, qu'il y a plus de catastrophes naturelles, ou de... Je vais me tourner vers vous, Jean-Claude Bousquet. Est-ce que dans la zone intertropicale, il y a plus d'événements cataclysmiques, d'activités sismiques, volcaniques qu'ailleurs ?
En ce qui concerne l'Afrique, pour l'activité sismique et volcanologique, il y a toute la région des grands rifts africains, avec des volcans actifs, des très grands volcans bien sûr. Sinon, il y a toute l'Afrique du Nord qui est méditerranéenne et qui a subi donc les mêmes effets des plaques dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais sinon, après, de l'autre côté, en Amérique du Sud, et moi-même, j'ai travaillé au Venezuela sur des failles actives du Venezuela. Il y a ensuite toute la cordillère des Andes avec ses volcans très dangereux.
Aucune zone de la Terre n'est épargnée, c'est ça que vous êtes en train de me dire.
Ça fait partie de la ceinture, de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Bon, donc ça, c'est des régions par rapport à la Méditerranée. La Méditerranée, c'est très peu de choses comme activité par rapport à des régions comme ça. Donc, bien sûr.
Et est-ce que le changement climatique à l'œuvre actuellement, est-ce que là aussi, on voit plus d'événements cataclysmiques,
crises
volcaniques, non ?
Non, je ne crois pas que ça soit montré. Ce qui peut se passer, si vous voulez, c'est que dans les régions où les calottes glaciaires fondent, il y a un soulèvement, disons, de la charge qui pesait sur le continent est allégée. Et à ce moment-là, il y a une remontée en altitude un peu du continent. Et ça peut être accompagné d'une petite sismicité.
Mais pas plus que ça.
Pas plus que ça, oui.
Claire Tinel, vous avez été plus sollicitée ces dernières années. Est-ce qu'on voit une augmentation ou est-ce que c'est constant, les sollicitations et donc cette activité tellurique ou hydrométrique, hydrologique de la Terre ?
Alors au niveau des activations pour des événements géologiques, hein, donc séismes, éruptions volcaniques, non. Nous, on a un nombre d'activations qui reste constant depuis la création de la charte, hein, depuis 2000.
À peu près, c'est-à-dire, parce que ça donne une idée de ces événements-là, à peu près par an vous êtes activé.
Alors, on est activé en moyenne une quarantaine de fois par an. Là, on est, alors pour vous dire, aujourd'hui, on est à 584 activations depuis 2000. Et on a une soixantaine d'activations pour les séismes depuis 2000 et une trentaine d'activations pour des éruptions volcaniques.
Et
donc à peu près 15% désactivation de la charte.
Pour des activités géologiques, et parfois ce sont aussi, j'imagine, des événements qui ne sont pas si médiatisés que ça. Il y a des grands tremblements de terre, il y a des grandes éruptions volcaniques, et d'autres peut-être qui passent plus inaperçus, entre guillemets.
Oui, effectivement, sur la quarantaine d'activations, je vais vous les citer, et vous n'en connaîtrez que quelques-unes, en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup plus médiatiques, comme l'éruption du volcan Kilauea sur l'île d'Hawaï, ou celle du volcan El Fuego au Guatemala. Donc c'était au mois de mai, de cette année. Il y a eu le tremblement de terre au Népal en 2015, le tsunami au Japon en 2011. Donc tout ça, c'est vrai que c'est très médiatique. Également, tout ce qui est cyclone aussi. Là, on a eu beaucoup d'activations. On commence là la saison des cyclones au niveau des Caraïbes. Hein. L'année dernière, on a eu 9 activations de la charte en 2 semaines pour les cyclones Irma et Maria sur tout l'arc des Caraïbes. Donc les premières, c'était le 5 septembre. Donc là, on
va rentrer dedans. On continue de s'interroger sur ces saisons cycloniques, géologiques, telluriques sur la Terre et puis vu de l'espace en écoutant une voix tellurique, elle aussi, celle d'Aretha Franklin à qui vous avez eu envie de rendre hommage sur RFI. Claire Tinel, on vous propose Blue Holiday.
Autour de la question.
It's been a blue holiday since you've been gone. Oh, darling, to keep me warm. I cry when I hear the chapel bells ring, and sometimes I crawl through the night. Whoa. And make my holiday right. It's been a blue. Oh yes it has.
On ne s'en lasse pas. Blue Holiday, hommage à Aretha Franklin sur RFI. C'est votre choix, un choix inspiré et inspirant. Claire Tinel, est-ce que vous, dans votre parcours d'ingénieur devenu experte en imagerie spatiale, est-ce que vous pensiez apporter justement vos compétences au secours de l'humain, enfin que l'espace finalement serve, les images spatiales puissent servir l'humain et l'humanitaire?
Alors au départ non, puisque j'ai une formation effectivement d'ingénieur en mécanique, hein, donc il y a 20 ans je faisais de la mécanique, et puis je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ça toute ma vie, donc j'ai voulu changer, et l'aspect observation de la Terre, environnement, voilà, tout ce qui est télédétection m'a intéressé, donc je suis rentrée là-dedans, et j'ai eu la chance il y a 15 ans d'être embauchée au Centre National d'Études Spatiales, et au début c'était vraiment sur l'observation de la Terre, mais c'était pour un travail très technique, très algorithmique. Et ensuite, les évolutions des différents postes m'ont amené à travailler sur la charte. C'est vrai qu'effectivement, il y a 15 ans, jamais
donc, je n'aurais... Espace et catastrophe majeure.
Voilà, espace et catastrophe majeure. Mais il y a 15 ans, jamais je n'aurais pensé pouvoir travailler sur ce projet. C'est vrai que c'est un projet très attachant. C'est également très intéressant dans le fait, au niveau de la coopération internationale, parce qu'on interagit avec, quotidiennement, hein, avec donc là, les 17 agences spatiales, donc c'est exactement 14 nationalités différentes, donc quotidiennement, par téléphone, par mail. Et puis, effectivement, c'est l'impression de se dire, même moi, quand j'entends là dans les médias, il y a un typhon qui va passer, il y a eu un séisme, je me suis dit, tiens, la charte va être activée, on va pouvoir programmer les satellites, on sait qu'on va avoir des images et on sait que quelqu'un derrière pourra les utiliser et elles seront vraiment utiles. En tout cas, elles sont utiles. Donc ça, c'est vrai que c'est enrichissant.
De l'utilité de ces images spatiales pour les secours, mais pas vraiment pour prévenir. Est-ce qu'il est possible, Jean-Claude Bousquet, non seulement de surveiller, mais de prévoir, de prévenir ? Est-ce que la géologie a avancé là-dedans ? Est-ce qu'il est possible de prévoir des phénomènes aussi complexes ?
La géologie n'est pas seule là, hein. C'est la sismologie, la volcanologie qui interviennent. Et ce que je voudrais dire là, c'est que justement le spatial nous apporte beaucoup de changements, puisque on a vu maintenant l'importance qu'ont compris les mesures GPS dans le domaine des sciences de la Terre. On voit qu'il y a des déformations constantes, enfin un peu partout. Il faut savoir maintenant les analyser, voir ce que l'on peut en faire, parce qu'on a tellement de détails. Que
c'est, il y a c'est, presque c'est, trop de détails.
Oui, ça apporte beaucoup de choses. Et puis, voilà, qu'est-ce que ça va nous apporter de vraiment concret pour la prévision des tremblements de terre ? Ça, c'est encore une autre question.
Pourquoi est-ce que c'est difficile, si difficile justement
Parce que ce sont des phénomènes qui se déclenchent en profondeur. Donc on n'a pas accès vraiment aux mécanismes de la source. Alors après, on a des roches qui sont déformées donc en surface et qui ont subi des mouvements qui ont donné des tremblements de terre dans le passé. Donc on a des types de déformation des roches, mais savoir comment sont les contraintes en profondeur, quel est le rôle par exemple des apports d'eau en profondeur, on s'aperçoit que l'eau joue de plus en plus d'importance donc à des profondeurs de 10 km. Hein. Où en général est le foyer des séismes.
Et l'eau joue un rôle le plus important, c'est-à-dire l'eau est déclencheur de.
On s'en est aperçu il y a très longtemps, quand on a envoyé par exemple aux États-Unis des eaux usées en profondeur par des forages, on a déclenché augmenté la sismicité du secteur. Bon, en France, là où il y a la zone de lac où on fait du pompage de pétrole et de gaz, aussi ça a des conséquences, ça a augmenté le niveau de la sismicité. Donc c'est assez sensible à ces choses-là. Et alors il y a une autre méthode qui est l'interférométrie radar, bien sûr, qui donne des images de déformations qui sont en cours ou qui.
Là, il ne s'agit pas d'image, il s'agit d'interférométrie.
On a une sorte d'imagerie, quoi. On voit une image un peu de la déformation autour de la faille. Ça, c'est des choses tout à fait nouvelles. Donc, on peut imaginer que pour les questions de prévision, un jour, il y aura peut-être une nouvelle méthode spatiale. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des failles qui sont surveillées, qui sont appareillées, mais toutes les failles ne pourront jamais être, il y en a tellement, et très souvent dans ce domaine-là, on a des mauvaises surprises, on a des secteurs où on ne pensait pas qu'il pourrait y avoir de gros tremblements de terre, et un jour, il y a un tremblement de terre. Donc, il faut avoir une méthode globale et qui soit à l'échelle spatiale.
Vu de l'espace, c'est peut-être plus facile. Quelle est la faille ou le terrain que vous aimeriez encore explorer
Du temps de mon activité, ce que j'aurais aimé, c'était aller, par exemple, en Nouvelle-Zélande, qui est un pays de volcans et qui est traversé par une très très grande faille, au Japon, quoi, où c'est aussi un pays de séismes, de volcans très intéressant.
Vous avez encore de quoi faire sur Terre, et vous, Claire Tinel, depuis l'espace, qu'est-ce que vous aimeriez observer, aider ou soutenir, ou transmettre, ou promouvoir? Je ne veux pas en fait vous donner une colle, hein, mais je sais que vous êtes très content de nous connaître les coordonnées de ce que vous avez formé à Madagascar, peut-être de former d'autres.
C'est aussi, oui, un partage un peu des connaissances, et puis un support, une aide aux pays qui n'ont pas encore cet accès-là, qui n'ont pas encore l'information, parce qu'en fait, effectivement, ils n'ont pas l'accès, mais ils n'ont pas forcément l'information. Donc, essayer de les informer et pour pouvoir les aider et à se former.
et à accéder à toute cette belle technologie spatiale.
Merci à tous les deux d'être venus en direct pour nous faire partager, vue de l'espace et vue de la Terre, vos travaux, vos connaissances et vos interrogations sur l'activité de notre planète. Je rappelle le titre de votre très bel ouvrage, Jean-Claude Bousquet, très richement illustré et documenté, Volcans, séismes et tsunamis en Méditerranée, aux éditions Biotope. Et pour les amateurs de volcans, je signale aussi la parution aux éditions de la Chaux et Niesley de Volcans, artistes de la Terre, par Gilbert Chéronnet. Et le lien sur la charte Espace et catastrophes majeures du CNES est bien sûr sur notre page. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter à volonté. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses autour de notre table ronde mensuelle avec nos confrères et consoeurs de la presse scientifique. Il y aura bien sûr des magazines à gagner. Merci de votre curiosité. Amis auditeurs, un prochain journal dans une minute.